الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة السابع من شهر الله المحرم من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المجلس الثاني في قراءة وشرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 16 septembre 2018 et nous voici réunis pour le deuxième cours de l'étude de cet écrit Al-Ubudiyya, la servitude, de l'imam, l'éminent savant, Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons vu lors de la dernière assise, qui était donc la première, une introduction importante, une présentation de ce livre, où l'on a parlé de la cause qui a été la question posée par cet homme qui a demandé à l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah les détails d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer, le verset 21 de la sourate Al-Baqarah. Il a demandé à l'imam rahimahullah de lui détailler la question, de lui définir ce qu'est l'adoration, quelles en sont les branches, les catégories, et est-ce que l'adoration est le plus haut degré chez Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme il lui a demandé, est-ce que toute la religion est réunie derrière cette appellation ibada, ubudiyya, adoration. Nous avons vu la différence entre les deux termes, al-ibada et al-ubudiyya. Le premier est le nom que l'on donne aux actions que l'on fait. La prière est une ibada, le jeûne est une ibada. Le pèlerinage est une ibada, c'est-à-dire un acte d'adoration par lequel on se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi vu le sens du terme al-ubudiyya qui est utilisé pour définir l'état de la personne qui adore Allah, c'est-à-dire la servitude, le statut de serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu aussi plusieurs détails, dont des exemples d'adoration qui peuvent être manifestés par les membres, par la langue et par le cœur. Après cela, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ayant été interrogé sur le degré de l'adoration, est-ce qu'il est le plus haut degré chez Allah, subhanahu wa ta'ala? L'imam, rahimahullah, va répondre à ce point en montrant la grande place de ce statut qui est la servitude, al-ubudiyya, le fait d'être le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, nous parlons de celui qui choisit d'être serviteur d'Allah par la soumission à ses ordres, la reconnaissance de sa grandeur, de son unicité et son obéissance, subhanahu wa ta'ala. L'imam a dit, ذَلِكَ أَنَّ الْعِبَادَ لِلَّهِ هِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ وَالْمَرْضِيَةُ لَهُ الَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. L'imam rahimahullah nous dit, il en est ainsi car l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala est le but suprême. Le but suprême, aimé et agréé auprès de lui, pour lequel il a créé les créatures, subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit dans le sens rapproché du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Comme nous l'avons vu en introduction, les gens se sont divisés en deux vis-à-vis de la croyance en la raison pour laquelle il y a cette existence, ces créatures. Certains ont dit, nous sommes là pour manger, boire, assouvir nos désirs, suivre nos passions, on ne vit qu'une fois, on doit en profiter. D'autres ont dit, nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons été créés par le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Il nous a comblés de ses nombreux bienfaits. Et en nous octroyant la subsistance, en nous accordant la santé, la vie, en nous protégeant, en nous donnant tout ce dont on a besoin. En retour, il attend de nous de reconnaître son droit à l'adoration et de l'application de son unicité. Subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là sont les vainqueurs, ceux qui réussiront leur test le jour dernier. Ils ont compris la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Uniquement pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute cette existence. Uniquement en fonction de cela, certains entreront au paradis et d'autres en enfer. Et c'est pour ce principe, cette grande base, qu'Allah Azza wa Jal nous éprouve aussi dans cette vie d'ici-bas. L'imam rahimahullah nous dit, c'est pour cette raison que tous les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager, nous dit le shir Salih al-Fawzan, hafidahullah, est celui qui a reçu la révélation en ayant l'ordre de la transmettre. Un messager est un homme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait la révélation. Il lui a donné un message et lui a chargé de le transmettre à autrui. C'est lui que l'on appelle le messager. Le dernier de ces messagers est notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam rahimahullah a cité que tous les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler les gens à ce but suprême dont nous venons de parler, l'adoration d'Allah, à être des esclaves d'Allah, des serviteurs d'Allah de bon gré, en se soumettant à ses ordres, en acceptant ses commandements, subhanahu wa ta'ala, et en suivant ses messagers. Tous les messagers, sans aucune exception, ont tous appelé leur peuple à la reconnaissance de l'unicité d'Allah et l'application des actions qui en découlent, la soumission. Il nous cite des exemples de prophètes tels que Nuh, Hud, Salih et Shu'aib. Ils ont tous dit, comme on le retrouve dans le verset, à leur peuple, « U'budullah, adorez Allah, ma lakum min ilahin ghayro. Il n'y a pour vous aucune autre divinité que lui, méritant l'adoration. » Tous les messagers ont commencé, ont concentré leur appel sur l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est l'indice de la réussite dans l'appel à Allah. Celui qui voudrait prêcher, appeler autrui à Allah, en commençant par mettre en garde contre les péchés, les mauvais comportements, tout en délaissant la base qui est l'unicité d'Allah, son prêche est voué à l'échec. Et même s'il est suivi par des milliers de gens, son prêche est faux. Il n'est pas le prêche des messagers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple qui commettait bon nombre d'interdits. il consommait les boissons enivrantes. Il pratiquait l'usure. Il pillait les biens du faible. Ils enterraient leurs filles vivantes. Ils s'entretuaient. Et quand le prophète est arrivé, sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélé, « Ya ayyuha al-muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fa'kabbir, wa thiyabaka fa'tahir, wa rujza fa'hjur. » Allah azza wa jal a révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis les gens. Proclame la grandeur de ton Seigneur. Purifie tes vêtements. Éloigne-toi des idoles. » Voici les premiers ordres qu'il a reçus, sallallahu alayhi wa sallam. Lève-toi et avertis. Avertis les gens que s'ils continuent à suivre cette voie de l'adoration d'autre qu'Allah, ils seront perdus. Et la menace est grave et lourde sur eux. Proclame la grandeur de ton Seigneur. Enseigne aux gens qu'il est le plus grand. C'est lui qui mérite l'adoration. Purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actions de toute forme de polythéisme, de la souillure du shirk. Car en effet, dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a nommé les actions, la piété, comme étant un vêtement. Dans un autre verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala, « وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ » Le vêtement de la piété. Voici ce qu'il y a de meilleur. Le vêtement de la piété. La piété, c'est un terme qui réunit toutes les bonnes actions et le délaissement des péchés. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de purifier ses vêtements, ses actions. Ses actions de toute forme de shirk et de s'éloigner des idoles. Méditons ce qu'a cité l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah dans son livre Sittatu Mawadi' min as-Sira, six passages de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Il cite dans le premier point que malgré tous les péchés que ces gens commettaient, Allah tabaraka wa ta'ala a donné comme premier ordre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens au tawhid, de les mettre en garde contre le shirk, avant même de leur dire arrêtez tous ces péchés, parmi lesquels l'enterrement de filles vivantes. Pourquoi cela? Car il y a bien plus grave que ça. Le fait de donner l'adoration à un autre qu'Allah, c'est pire. Également, c'est en purifiant le cœur de l'attachement à autre qu'Allah que la soumission à ses ordres deviendra plus simple et plus facile pour le serviteur. Et c'est par cela qu'il faut commencer. Et c'est donc le prêche de tous les messagers. Ils ont tous appelé à cela. Et ce verset, « U'budullah, ma lakum min ilahin ghayru » Adorez Allah, il n'y a pour vous aucune autre divinité méritant réellement l'adoration, est le tafsir de la parole « La ilaha illallah ». Si l'un d'entre les gens disait « Mais que veut dire cette parole « La ilaha illallah » et qu'un autre lui répondrait « Elle veut dire « U'budullah ma lakum min ilahin ghayru » Adorez Allah, il n'y a pour vous aucune autre divinité que lui ne méritant réellement l'adoration. » Cette définition et cette réponse seraient complètes et correctes. Voici le sens de la parole « La ilaha illallah » ce à quoi tous les messagers ont appelé. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qu'Allah le récompense, qu'Allah lui accorde la santé et qu'il le fasse mourir sur le tawhid qu'il nous a enseigné et la sunna qu'il nous a fait aimer, Hafidhahullah, nous dit que dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit « U'budullah, adorez Allah, fihi amrun » C'est un ordre. Ma lakum min ilahin ghayra, il n'y a pour vous aucune autre divinité méritant réellement l'adoration. فيه نهي عن عبادة غير الله عز وجل. Ce morceau de verset comporte l'interdiction de donner un égal à Allah, d'associer à Allah une quelconque divinité. Il nous dit que le prophète Nuh alayhi salam, qui est le premier messager, le premier qui est arrivé avec un message à transmettre, a ordonné son peuple la concrétisation du tawhid. Pareil, le prophète Hud, Saleh et Shu'aib, ils ont tous dit à leur peuple, adorez Allah, aucune autre divinité que lui pour vous. L'auteur rahimahullah a dit, wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jitanibu at-taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Dans le sens rapproché du verset. Et nous avons envoyé à chaque peuple un messager pour leur dire, adorez Allah et éloignez-vous du tarout, de l'adoration de tout autre qu'Allah. Il y a parmi ces gens, c'est-à-dire les gens qui ont reçu ces messagers et ces messages, il y a parmi ces gens certains qui ont été guidés par Allah, et parmi eux d'autres sur lesquels a été réalisé l'égarement. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de l'égarement du tawhid, de s'éloigner de la ilaha illallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raffermisse sur la parole du tawhid. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid. Et qu'il fasse que notre dernière parole dans cette vie d'ici-bas soit la parole suivante. La ilaha illallah. Avec la compréhension de son sens, la soumission à ce qui en découle et l'application des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans ce verset, Allah nous montre de manière globale et générale que tous les messagers ont été envoyés pour ce prêche et cet appel. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, jazahullahu khayran, nous dit que l'auteur, rahimahullah, a tout d'abord cité des preuves détaillées en citant des noms de prophètes et le message qu'ils ont prêché. Et dans ce verset-là, il cite une preuve globale, une preuve générale, pour nous dire que de manière générale, tous les messagers ont dit à leur peuple, adorez Allah, et éloignez-vous de l'adoration de tout autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh Saleh al-Fawzan nous dit, فَاتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ اُعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Ils ont été unanimes. Leur parole a été une parole commune. Ils ont dit, adorez Allah. Nulle autre divinité que lui ne mérite l'adoration. Les messagers ont été envoyés par Allah vers leur peuple pour les écarter de l'adoration de tout autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Le tarout qui a été cité ici, c'est un terme qui vient d'un verbe arabe qui est le suivant, tara, qui signifie transgresser, outrepasser les limites. Et quand nous disons tarout et que nous lisons ce terme dans le Coran, ce qui est voulu, c'est l'adoration de tout autre qu'Allah, car cette adoration de tout autre qu'Allah est une transgression, et c'est la pire des transgressions. La personne qui adore autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, et lui voue un quelconque culte qui est réservé à Allah, a transgressé, a outrepassé les limites fixées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est adoré en dehors d'Allah, et même ce qui est adoré en dehors d'Allah, celui pour en douer de raison, et ce pour un objet, comme un objet inerte. En résumé, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais quand nous parlons de celui qui est doué de raison, s'il est satisfait de l'adoration qui lui est vouée, il est appelé tarout. Ceux qui appellent les autres à les adorer en dehors d'Allah, ce sont des tawarites, le pluriel du terme tarout, des rebelles, ils ont dépassé les limites, ils appellent au shirk, au polythéisme, au pire des péchés. Si par contre, quelqu'un est adoré en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais sans en être satisfait, sans y avoir appelé, alors le tarout sera le shaitan dans cette forme-là. Vous savez que des prophètes ont été adorés. Isa alayhi salam a été adoré. Il n'est pas un tarout. Qui est le tarout alors dans cette forme-là? Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit c'est le shaitan. Car c'est lui qui les a appelés à adorer Isa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: Alam a'had ilaykum ya bani Adama alla ta'budu shaitan. N'avais-je pas pris votre engagement, ô enfant d'Adam, de ne pas adorer le diable? L'adoration du diable ici se manifeste par le suivi de ses ordres d'adorer autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous informe, Azza wa Jal, que tous les messagers ont appelé à cela et qu'après les gens se sont divisés en deux. Faminhum man hada Allah. Parmi eux, certains ont été guidés par Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Et parmi eux, certains ont vu sur eux l'égarement se réaliser. Le Cheikh Al-Fawzan, حَفِظَهُ اللَّهُ nous dit: أَيْ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ الْمُقَدَّرَةِ عَلَيْهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ بِسَبَبِ عُتُوِّهِ وَعِنَادِهِ. C'est-à-dire qu'il y a parmi eux des gens sur lesquels l'égarement qui a été décrété pour eux par Allah Azza wa Jal s'est réalisé, s'est concrétisé. Il a été effectif sur eux. Il nous dit qu'il a été décrété pour eux en raison, à cause de leur rébellion, leur entêtement à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette phrase est la phrase d'un savant qui connaît l'iman ou bil qadr, la foi au destin, qui connaît les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, il sait parler, elle est précise. Il nous dit qu'Allah le préserve, sur eux l'égarement a été réalisé. L'égarement qui leur a été décrété et qui a eu des causes. Certes, Allah a décrété l'égarement pour eux, mais cette chose qui a été décrétée et toute chose qui a été décrétée vient avec ses causes. Et les causes de cet égarement qui leur a été décrété, c'est comme nous le dit le Cheikh, leur entêtement, leur obstination face aux ordres d'Allah, notamment le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. فَأَبَا أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَبَدَ غَيْرَهُ. Certains de ces gens ont refusé d'adorer Allah, ils ont adoré autre que lui. وَذَلِكَ بِسَبَبِ دُعَاتِ الضَّلَالِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Et tout cela à cause des prêcheurs à l'égarement. À cause des prêcheurs à l'égarement parmi les diables, hommes et djinns. Car beaucoup de gens qui sont égarés aujourd'hui et ont dévié du tawhid ne le sont et ne l'ont fait, n'ont dévié qu'à cause du fait qu'ils ont prêté oreille à des gens qui les ont appelés à l'erreur, des gens qui les ont désorientés, des gens qui les ont égarés, au sujet desquels le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Et je ne crains pour ma communauté que les imams égareurs. Allahu Akbar. Et c'est pour cette raison que parmi les fondements qui ne bougent jamais des gens de la sunna, c'est bien de montrer et dévoiler les égarements et les égareurs, de mettre en garde contre eux, de sensibiliser la communauté sur leur danger et le mal qu'ils causent dans les musulmans. Et parmi ces égareurs, ceux qui appellent au shirk, au polythéisme, à l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh nous dit: حَيْثُ أَحْدَثُوا فِي النَّاسِ الشِّرْكِ وَصَرَفُوهُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ. ces gens qui ont innové le polythéisme au sein des gens et les ont déviés de l'adoration d'Allah. Autrefois, les gens étaient dans le tawhid. Depuis Adam alayhi salam, depuis Adam jusqu'à Nuh alayhi salam, comme nous dit Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah, كان بين آدم ونوح عليهم السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام. Il y avait entre Adam et Nuh عليهم السلام 10 قرون, c'est-à-dire d'après les deux explications données ici par les savants, 10 siècles ou alors 10 générations. L'essentiel, c'est qu'il y avait un très grand nombre d'années pendant lesquelles ils étaient uniquement sur l'islam. Ils ne connaissaient pas le shirk. Et quand le shaitan a commencé à les égarer, et quand les prêcheurs à l'égarement sont arrivés, ils ont changé la nature saine que l'homme a toujours connue. Et leurs suiveurs aujourd'hui ne cessent de d'égarer les gens et de les induire en erreur. Wal'iyadu billah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit: alors qu'Allah est celui qui mérite l'adoration, c'est vers lui qu'il faut diriger toutes les adorations. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dans le sens rapproché du verset: et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler: nulle divinité ne mérite l'adoration autre que moi, adorez-moi donc. Qu'est-ce que vous voyez dans ce verset? Vous voyez que tous les messagers ont reçu cette révélation. Tous les messagers ont reçu cette révélation. Et l'égarement des gens, mes frères, ô musulmans, est tellement grand qu'un jour, alors que nous étions en train d'appeler Allah, tabaraka wa ta'ala, de prêcher, l'intervenant a dit dans une mosquée, dans un pays, parmi les pays d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit que tous les messagers ont une seule parole. Ils sont unanimes, ils ont un seul prêche, ils appellent tous au tawhid, la ilaha illallah. Un homme présent dans l'assistance lui a dit: kadhab, grand menteur. L'intervenant lui a dit: j'ai menti. Il lui a répondu: wallahi ya shir, anta kadhab. Wallahi ya shir, tu es un grand menteur. Et là, notre frère de la sunnah lui a fait entendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de le faire taire. Mais nous demandons à Allah de nous guider et de guider les musulmans par notre cause notamment. Voyez donc la gravité de l'égarement. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah continue à citer des versets. Il nous dit: وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Et cette communauté qui est la vôtre, et je vais détailler parce que le terme umma a besoin de détails, mais de manière simplifiée avant le détail, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, ou alors cette religion qui est la vôtre est une religion unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Dans l'autre verset, كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. Comme il nous dit dans l'autre verset, le sens rapproché bien sûr: ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez en bien. Je suis certes parfaitement connaisseur de vous. Et cette communauté qui est la vôtre ou cette religion qui est la vôtre est unique et je suis votre Seigneur. Craignez-moi alors. Vous avez entendu ? Dans la traduction, j'ai dit cette communauté ou cette religion. Pourquoi ? Parce que le terme utilisé dans ce verset, qui est le terme « umma », que les gens ont l'habitude de connaître comme étant une communauté, ce qui n'est pas faux bien sûr. Mais sachez que les termes arabes ont plusieurs sens des fois. Notamment, pour ce terme ici dans le Coran, il a quatre sens. Il peut avoir le sens de la religion. Comme on trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Dans surat al-Zukhruf, dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Et ainsi, nous n'avons pas envoyé avant toi, dans un village, un avertisseur, sans que les gens aisés de ce village ne lui répondent, nous avons trouvé nos ancêtres sur une umma. » Ce qui est voulu ici, sur une religion. Donc il peut avoir le sens de religion. Le terme umma dans le Coran peut avoir le sens de un laps de temps, un moment déterminé. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Yusuf, Surat que je ne connais pas, mais connaît ce morceau de verset. Il nous dit wa qala alladhi naja minhumā wa dhakara ba'da umma, et celui des deux qui a été sauvé et qui s'est rappelé après umma, c'est-à-dire après un moment. Dans la sourate Yusuf, dans l'histoire des deux hommes qui étaient en cellule avec Yusuf et à qui Yusuf a dit rappelez à votre gouverneur mon cas, parlez-lui de moi, jusqu'à la fin de l'histoire. L'essentiel, c'est que le terme umma qui est utilisé ici signifie un laps de temps, un moment déterminé. Le terme umma peut vouloir dire un homme qui est un modèle à suivre. Allah Azza wa Jalla a dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Dans le sens du verset, Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salam, était pour les gens une umma, c'est-à-dire un guide à suivre. Et le mot umma peut aussi, et vient dans le Coran, avec le sens de la communauté. Al-jama'atu minan nas. Al-jama'atu minan nas. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Et nous avons envoyé à chaque Umma, ici, c'est une communauté. Après avoir compris que le terme Umma employé dans le Coran a ses quatre sens qui ont été cités par l'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, sachez que dans ce sens-là, dans ce verset-là, les savants ont plusieurs paroles. Nous retrouvons chez l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, que le sens de Umma ici, c'est Al-Jama'a ad-Din, la religion. Et il rapporte cela de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, et certains autres parmi les salafs, les pieux prédécesseurs, qui expliquent ce verset comme disant Wa inna hadhihi ummatukum ay jama'atukum. Cette communauté, ce groupe qui est le vôtre. Et d'autres disent que ce qui est voulu, c'est le sens de religion. Et c'est ce que l'on retrouve dans le tafsir de l'imam Sa'di, rahimahullah. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de contradiction. Car oui, cette religion qui est la vôtre est une religion unique. Et oui, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Walillahi alhamdu wal minna. Le cheikh lui, Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous explique tout d'abord cette partie de verset où Allah Azza wa Jal s'adresse aux messagers et leur dit Kulu min at-tayyibat, mangez des bonnes choses, wa'malu saliha. Manger des bonnes choses, c'est-à-dire manger le halal, manger la subsistance licite, nourrissez-vous de ce qui est licite, de ce qui est bon et pur. وَعْمَلُوا صَالِحًا et faites de bonnes actions. أي استعينوا بالأكل من الطيبات على العمل الصالح وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire, aidez-vous du fait que vous mangez de ces bonnes choses pour faire les bonnes actions. Allah Azza wa Jal a lié la bonne subsistance aux bonnes actions. Tu n'es pas créé simplement pour manger, pour jouir, pour assouvir tes désirs. Et combien sont les gens qui ont utilisé les bienfaits d'Allah pour oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a enrichis, ils l'ont oublié. Allah azza wa jal leur a donné une bonne santé, ils l'ont oublié avec cette santé, avec cette richesse. Ici, Allah azza wa jal dit aux messagers que nous devons suivre et prendre pour modèle dans le sens du verset كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. Mangez des bonnes choses et œuvrez dans le bien. Aidez-vous de ces bonnes choses que vous mangez pour faire des bonnes actions, nous explique le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne veux pas de subsistance. Je ne veux pas de non plus qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Certes, Allah est celui qui octroie la subsistance, le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah nous ordonne de l'adorer et nous parle de la subsistance qu'il nous donne. Subhanahu wa ta'ala. Fa amara ar-rusula an ya'kulu min at-tayyibat ay al-halal al-mubah. وفي هذا نهي عن الأكل من الحرام. On retrouve dans ce verset, par la compréhension, l'interdiction de manger ce qui est illicite et interdit. والتغذي بالحرام لأن الأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح والأكل من الحرام يصرف عن العمل الصالح. Car le fait de manger les bonnes choses aide à faire les bonnes actions. Et le fait de manger les mauvaises choses éloigne des bonnes actions. Regarde, celui qui mange le haram, qui boit le haram, celui dont la subsistance est illicite, il est éloigné des bonnes actions. Des fois, on voit certains d'entre eux dire « Je ne peux pas aller au hajj. Pourquoi ? Mon argent est sale. Je ne peux pas donner d'aumône. Pourquoi ? Mon argent est sale. » Et quand il vient, ou quand on lui dit de prier, de venir à la mosquée, il se dit, comment je vais entrer dans cet endroit alors que les vêtements que je porte ont été achetés avec de l'argent sale? Qu'est-ce qui se passe? La subsistance illicite qu'il a mangée l'éloigne de l'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana, urzuqna rizqan halalan. Allahumma urzuqna rizqan halalan. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Rabbal Alamin. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi, pardon, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit aussi, وَجَعَلَ ذَلِكَ لَازِمًا لِرَسُولِهِ إِلَى الْمَوْتِ كَمَا قَالَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Allahu Akbar. L'imam rahimahullah nous dit, et Allah azza wa jal a rattaché cet ordre, l'application de cet ordre à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et cela jusqu'à ce qu'il meure, en lui disant dans le sens rapproché du verset, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude. La certitude, c'est la mort, comme on va le détailler dans les minutes qui arrivent, incha'Allah ta'ala. Qu'est-ce que l'on voit ici? Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, واليقين هو الموت. La certitude, c'est la mort. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. Les actions du musulman ne s'arrêtent qu'à la mort. C'est-à-dire les actions que lui fait. N'est-ce pas? Les actions que lui fait quand il est vivant. Certes, quand il meurt, il reste des actions qui ne cessent de lui tirer profit le fait de laisser un enfant pieux qui invoque pour lui, de faire une aumône durable et de laisser une science utile. Mais quand il est vivant, les actions que lui fait pendant qu'il est vivant ne s'arrêtent que quand il meurt. Dans le sens où on ne dit pas, il est possible que le serviteur atteigne un niveau tel qu'il n'a plus besoin de faire des bonnes actions. Et cette parole, cette croyance, ce kufr, on le retrouve chez les exagérateurs du soufisme. Roulette ou soufia. Ils disent, Allah Azza wa Jalla a dit, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude. Ils disent, il y a des gens qui ont atteint un degré de certitude tellement fort que n'ont plus l'obligation d'adorer Allah. Ils appellent ces gens-là al-wasil ilallah, celui qui est arrivé à Allah. La ilallah wa la ila ridallah wasal. Il n'est arrivé ni à Allah ni à l'agrément d'Allah. Bal huwa al-wasil ila ash-shaytan ar-rajim. Il est arrivé au diable. Wal-iyadu billah. Ce verset a été révélé sur le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Voyons comment il l'a appliqué. Il priait jusqu'à ce que ses talons s'ouvrent, jusqu'à avoir des plaies. Il n'a cessé d'adorer Allah, d'évoquer son nom jusqu'à la mort. Avant même de mourir, il a invoqué Allah et lui a demandé le pardon d'Allah. Et c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pareil pour ses compagnons. Comment aujourd'hui nous pouvons dire, et pire encore, croire que telle personne, il est arrivé à Allah, elle est arrivée à Allah, elle n'a plus besoin de prier. Et qu'est-ce que vous voyez dans les endroits où vivent ces gens-là? C'est que ce fameux wasil, celui qui soi-disant est arrivé à Allah alors qu'il est arrivé à Shaytan, ne prie pas. Les gens lui disent, tu ne pries pas, il y en a wasalt, et la liyaqin, je suis arrivé à la certitude, wal'iyadu billah. Hada kufrun billah. C'est de la mécréance. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet des gens qui seront dans le feu, Ahlun Nar. Qalu, ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a conduit dans le feu de Saqar? Les gens, on leur dira, qu'est-ce qui vous a amené ici au feu? Qalu, lam nakum min al-musallin. Écoutez ce qu'ils répondent. Ils diront, nous n'étions pas du nombre des gens qui priaient. On ne faisait pas la prière. وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ. On ne donnait pas de nourriture aux pauvres. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ. Et nous démentions le jour de la rétribution. On ne croyait pas au jour dernier. حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ. Jusqu'à ce que la certitude vint à nous. Cheikh Abdelrazzaq al-Badr nous dit, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce verset? Comment vont-ils expliquer? La certitude, c'est la certitude en Allah. Ils sont arrivés à la certitude et cette certitude les a conduits à Saqar, dans le feu de l'enfer. Quelle explication égarée! Ce qui est voulu par la certitude, c'est la mort. Ces gens-là, quand on leur dira « qu'est-ce que vous faites ici dans le feu ?», ils répondra « on a abandonné la prière, on n'a pas obéi à Allah, on s'est opposé à ses ordres jusqu'à que la mort est arrivée à nous ». Voilà ce qui est voulu dans ce verset. Wa'bud rabbaka. Adore ton Seigneur. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. Jusqu'à ce que la certitude vienne à toi. Qu'est-ce que l'on retient ici? On retient que cette action qui est al-ibada, cette adoration pour laquelle nous sommes créés, n'a pas de fin jusqu'à notre mort. Nous devons être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas comme le disent ces exagérateurs du soufisme. Wal'iyadu billah. Quel égarement. Et ce verset répond à ces gens-là. Comme nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala. L'adoration également ne concerne pas uniquement les hommes. Elle concerne les djinns. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tout cela pour que l'imam détaille la place de l'adoration en réponse à la question de la personne qui lui demande, est-ce que c'est la plus grande station, la plus grande place, le plus haut degré chez Allah ou non? C'est à travers le développement de tous ces versets que la réponse s'éclaircit pour l'interrogateur. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, continue, mais avant, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, après nous avoir parlé du fait que les djinns et les hommes doivent adorer Allah, nous montre qu'également les anges doivent l'adorer. Car l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a cité la parole d'Allah en disant وَبِذَلِكَ وَصَفَ مَلَائِكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ فَقَالَ تَعَالَى وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Ainsi, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit, de même, c'est par cet état, c'est-à-dire la servitude, al-ubudiyya, le fait d'être serviteur d'Allah, qu'Allah, azza wa jal, a décrit ses anges et ses prophètes. Dans le sens des versets suivants, il nous dit, et pour lui, et à lui, appartient tous ceux qui sont dans les cieux et la terre. Quant à ceux qui sont auprès de lui, qui sont-ils? Les anges rapprochés, les anges les plus rapprochés. Quant à ceux qui sont auprès de lui, ils ne s'enorgueillissent pas devant son adoration, ni ne se lassent. Les anges sont des adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les anges n'éprouvent aucune lassitude à adorer Allah. Ça n'existe pas un ange qui en a marre d'adorer Allah. Abadan. Ils obéissent à Allah et le jour dernier, ils diront « Nous ne t'avons pas adoré comme il se doit » et ne désobéissent jamais à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne se lassent pas, ils ne s'enflent pas d'orgueil dans le sens où ils s'opposent à l'application des ordres. Au contraire, « Yusabbihuna al-layla wa al-nahar, la yafturun » ils proclament la grandeur, la pureté d'Allah Azza wa Jal, de jour comme de nuit, sans jamais avoir de manquement dans cela. Allahu Akbar. Également dans l'autre verset, dans le sens bien sûr rapproché, certes ceux qui sont auprès de ton Seigneur ne sont pas orgueilleux devant son adoration. Ils le glorifient et se prosternent pour lui. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que le Cheikh nous cite cela? Afin que l'on prenne en exemple, en modèle les anges. Tout comme les anges adorent Allah constamment, il nous est demandé à nous aussi d'adorer Allah constamment. Et encore une fois, cela répond à la parole de ceux qui disent qu'il existe des gens qui sont arrivés à l'yaqin, à la certitude. Ils n'ont plus besoin d'adorer Allah. Ces anges-là, est-ce qu'ils ont la certitude ou pas, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'ils adorent Allah de nuit comme de jour, sans jamais se lasser, sans jamais s'arrêter? Donc vous voyez un peu la réponse à cet égarement. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à imiter les anges dans les rangs. Il nous dit « Ala tasufuna kama tasuful malaika » N'allez-vous pas vous aligner comme les anges s'alignent? Donc vous voyez qu'on nous encourage à prendre les anges comme modèle. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit فَالْمَلَائِكَ بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْلًا وَنَهَارًا. Toutes catégories confondues, les anges adorent Allah de jour comme de nuit. لَا يَفْتُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Sans jamais éprouver de lassitude pour son adoration, ni s'enorgueillir. وَمَنِ اسْتَكْبَرَ عَنْ عِبَادَتِهِ فَعَذَابُهُ أَلِيمٌ. Et celui qui s'enfle d'orgueil devant son adoration, alors son châtiment sera douloureux. Al-Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah continue: وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Allah Azza wa Jal a blâmé ceux qui s'enflent d'orgueil devant son adoration, en disant dans le sens rapproché du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration, entreront dans le feu où ils seront avilis, humiliés. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'Allah Azza wa Jal ordonne de l'invoquer, et plus loin, il va appeler l'invocation adoration, en disant que ceux qui refusent de l'invoquer entreront au feu. Mais comment est-ce qu'il l'a dit? Ceux qui s'enorgueillissent face à son adoration. Et l'adoration qui est voulue ici est laquelle? L'invocation. Ce que l'on comprend, c'est que celui qui s'enfle d'orgueil face à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, voit peser sur son dos cette lourde menace. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Fasamma ad-du'a ibada, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Allah Azza wa Jal a nommé l'invocation adoration. Fad-du'a huwa al-ibada. Car l'invocation est l'adoration, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là seront dans le feu humiliés. Il nous dit, Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, وَنَعَتَ صَفْوَةَ خَلْقِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ لَهُ فَقَالَ تَعَالَى عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وقال وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dans le sens de la parole, il nous dit, de même, Allah a décrit dans le Coran l'élite de ses créatures par la servitude. L'élite, c'est-à-dire les meilleurs, les gens les plus purs qui ont été mentionnés dans le Coran par Allah Azza wa Jal, ont été décrits par ce statut qui est Al-Ubudiyya, la servitude. En disant dans le sens rapproché du verset de Suratul Insan, l'homme, c'est une source dans laquelle pourront boire les serviteurs d'Allah. Ils la feront jaillir. C'est une source, au paradis bien sûr, dans laquelle pourront boire les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir. Dans l'autre sens du verset, dans son sens rapproché, et les serviteurs du Tout Miséricordieux, ceux qui foule la terre avec modestie. Ils marchent avec modestie et ne sont pas orgueilleux. Et quand les ignorants s'adressent à eux, ils leur répondent « Salam ». Ils ne répondent pas à l'idiot par l'idiotie, à l'ignorant par la sottise. Ils disent « Salam, il est ignorant. Je n'ai pas de temps à perdre avec lui. » Il ne se rabaisse pas au niveau d'ignorant. Il reste au haut niveau. Et il ramène avec eux les gens en haut. Pas comme beaucoup de gens le font lorsqu'ils font face à un comportement d'une personne ignorante, sotte, idiote, faible d'esprit. Au lieu de rester haut et d'amener cette personne en haut, ils descendent et d'un coup ils deviennent eux aussi sots, idiots, faibles d'esprit. Allah Azza wa Jal a décrit ces gens-là par ce comportement, qui sont élevés. Et ils ont été appelés Ibadur Rahman, les serviteurs du Tout Miséricordieux. Ils sont les serviteurs du Tout Miséricordieux. Al-Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah nous dit: wa qad wasafa Allah subhanahu wa ta'ala khiyara ibadihi bil 'ubudiyyah وعدم الاستكبار فدل على أنه لا يخرج أحد عن العبودية. Parmi ceux qui prouvent que aucun ne sort de ce statut de servitude ou de serviteur, le fait qu'Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran les meilleurs de ses créatures par la servitude et par le non-orgueil face à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَاُولَئِ هُمُ السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ. Ces gens-là qui ont été cités, ce sont les devanceurs, les rapprochés. Ils ont devancé les autres, ils ont été rapprochés d'Allah, tabaraka wa ta'ala. سَمَّاهُمْ عِبَادَ اللَّهِ مَعَ مَكَانَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ فَهُمُ السَّابِقُونَ الْمُقَرَّبُونَ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْمَكَانَةِ. Peu importe le degré de bonté, la haute place que peut occuper la personne, elle ne sortira jamais de ce statut de serviteur, de la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au deuxième verset, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et quand les ignorants s'adressent à eux, ils leur répondent salam. Le Cheikh Salah Al-Fawzan nous dit, ces ignorants cités ici, وَهُمُ الْحَمْقَى. Ce sont les sots, les faibles d'esprit. لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْمِثْلِ. Ils ne répondent pas à ces gens-là par un pareil comportement. Au contraire, ils patientent. Et c'est avec leur patience qu'ils gagnent ce statut et cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam continue et dit وَلَمَّا قَالَ الشَّيْطَانِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et quand le diable a dit en s'adressant à Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit « Ô Seigneur, comme tu m'as égaré, je vais embellir pour tous ces gens-là dans la terre, c'est-à-dire l'égarement. Je vais les amener à l'égarement et je vais tous les égarer. Je vais tous les faire dévier, à l'exception de tes serviteurs que tu auras élus, les serviteurs que tu as choisis. » Qu'est-ce qu'on retrouve? Que le shaitan va égarer tous les gens, sauf ceux qui ont concrétisé ce statut, cet état de la servitude d'Allah. Sauf tes serviteurs que tu as élus. Et ainsi, ces gens-là qui ont concrétisé ce statut sont les élus d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah lui a répondu? Allah Azza wa Jal lui a répondu tout de suite après. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Certes, mes serviteurs, tu n'auras sur eux aucune emprise. Voici le remède contre Shaitan. Tu veux être plus fort que Shaitan? Sois le serviteur d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Tu ne veux pas être égaré par le Shaitan? Adore Allah et sois son serviteur. Certes, mes serviteurs, tu n'auras jamais aucune emprise sur eux. À l'exception de ceux qui te suivront parmi les déviants. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit qu'Allah maudit Iblis. Il dit Allah a maudit Iblis, pardon, c'est-à-dire il l'a exclu de sa miséricorde à cause de sa mécréance et de son orgueil. Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam. Amrahu an yasjuda li Adam. Fa aba wastakbara wa kana min al-kafirin kama qala azza wa jal. Il a refusé. Il s'est enorgueilli. Il fut alors partie du nombre des perdants. Il fit partie du nombre des perdants. Qu'est-ce qu'Iblis a dit? Rabbi bima aghwaytani. Il dit, ô Seigneur, par le fait que tu m'as fait dévier, Cheikh Fawzan dit, Iblis n'a pas dit, Lam yaqul anni rawaytu faghfir li. Fahtajja bil qadari ala al ma'siyah. Regardez bien. Iblis n'a pas dit, Oh Seigneur, je me suis égaré, je te demande le pardon. Qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Il a dit, Oh Allah, tu m'as égaré. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a voulu justifier son égarement et sa désobéissance par le destin. C'est-à-dire, c'est toi qui as destiné mon égarement. Allahu Akbar. Qala Rabbi bima aghwaytani. Tu as décrété que j'allais m'égarer. Au lieu de dire rawaytu farfirli, ce qui était meilleur pour lui, de dire je me suis égaré, accorde-moi ton pardon. Lui a dit tu m'as égaré. Walam yatub min adh-dhanb. Il ne s'est pas repenti de son péché. Kama taba Adam alayhi salam, contrairement à Adam alayhi salam qui a obéi à Shaytan. Comme a dit Allah Azza wa Jal, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى غَوَى. Adam a désobéi à son Seigneur et a dévié. Mais Adam a demandé pardon. وَعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ. Il a reconnu son péché. Allah lui a pardonné. Regardez où est Adam et regardez où est Iblis. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. توعد أن ينتقم من بني آدم. الشيطان a été habité par une haine, un orgueil qui l'a poussé à se venger sur la descendance de Adam, à tout faire pour les égarer, sauf ceux qu'Allah a élus. Allah Azza wa Jalla a dit: قال هذا صراط علي مستقيم إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ceci est une voie droite, et mes serviteurs, tu n'auras jamais aucune emprise sur eux, sauf ceux qui te suivent parmi les déviants, qui dévient du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Fawzan dit, فَالَّذِينَ يَعْتَصِمُونَ بِاللَّهِ وَيَلْجَأُونَ إِلَى اللَّهِ. Ceux qui cherchent refuge et abri auprès d'Allah, لا يتمكن الشيطان من إغوائهم وإضلالهم. Le diable n'a aucune emprise pour les égarer. لأن الله يعصمهم حيث أخلصوا عبادتهم لله. Car Allah les préserve du fait qu'ils ont voué uniquement et exclusivement l'adoration. سبحانه وتعالى. L'imam ibn Taymiyyah رحمه الله continue. وقال في وصف الملائكة بذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. الله تبارك وتعالى a décrit les anges par la servitude également, toujours en train de parler du degré, de la place, du statut, de la station, de la servitude. Allah Azza wa Jalla a décrit les anges par cette station, par ce degré, dans le sens rapproché des versets. Il nous dit, et ils dirent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant, exempt soit-il de tout défaut, subhanah, exempt soit-il de toute imperfection, parmi lesquels le fait d'avoir un enfant. C'est pour ça qu'Allah répond, subhanah. Ces gens-là ont dit, Allah a un enfant. Pour Allah, avoir un enfant, c'est une imperfection. Il est parfait, il n'a pas besoin ni de compagnie, ni de se réjouir, ni d'aimer un enfant, ni de l'aide d'un enfant, ni de tout cela. C'est une imperfection que nous avons. Allah Azza wa Jalla a répondu à cette parole par la parole Subhana, qui veut dire « exempt soit-il de toute imperfection ». C'est-à-dire parmi lesquels le fait d'avoir un enfant. Vous avez compris? Subhanah, bal ibadun mukramun. Ils sont au contraire des serviteurs honorés. Vous allez voir l'explication. La yasbiqunahu bil qawl. ils ne le devancent pas par les paroles. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Et ils appliquent son ordre jusqu'à la fin, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens, وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Et ils sont apeurés, ils ont crainte de lui, subhanahu wa ta'ala. De qui Allah parle? Le Cheikh Salah Al-Fawzan nous explique que ces gens cités ici, qui ont dit Allah s'est attribué un enfant, il ne s'agit pas des chrétiens qui ont dit Allah a un fils. Il s'agit des gens de l'Jahiliyyah qui eux disaient « Al-Malaika banatullah wal-iyadhu billah » Les anges sont les filles d'Allah. Ça c'est une parole qui était dite à l'époque de Quraysh, à l'époque de la Jahiliyyah, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc ceux qui ont dit « Isa le fils d'Allah wal-iyadhu billah » Et les autres qui ont dit « Les anges sont les filles d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous épargne ces égarements. » Allah Azza wa Jal a répondu à tout cela. « Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad » Il n'a pas engendré, ni ne l'a été, et nul ne lui est égal. Subhanahu wa ta'ala. Également, Allah Azza wa Jal a dit ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله Allah ne s'est pas attribué d'enfant et il n'y a aucunement avec lui d'autres divinités إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض car s'il en était ainsi regardez la réponse l'argument puissant qu'Allah Azza wa Jalla donne pour répondre à ceux qui disent qu'il y a plusieurs divinités. Il dit, dans le sens rapproché du verset, Allah ne s'est pas attribué d'enfant. Il n'y a pas de divinité avec lui. Et si c'était le cas, ce qui bien sûr ne le sera jamais, ne l'a jamais été, si c'était le cas, chaque divinité s'en irait avec ceux qu'elle a créés. Et certaines voudraient être plus hautes que les autres. Regardez le lien entre l'adoration et la création. Si vous dites qu'il y a plusieurs divinités, ce qui est impossible, mais pour vous montrer que c'est impossible, et vous appeler à raisonner, ou vous qui dites qu'il y a plusieurs divinités, qui dit divinité dit capable de créer, n'est-ce pas? Si vous dites qu'il y a plusieurs divinités, c'est que vous dites qu'il y a plusieurs créateurs. Si vous dites qu'il y a plusieurs créateurs, c'est que chaque créateur va avec tout ce qu'il a créé. Et si c'est le cas, chaque créateur va concurrencer avec l'autre pour être plus fort, pour posséder plus que l'autre. Cette anarchie est impossible. Il n'y a qu'un créateur. C'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Allah dit ensuite, Subhanallah amma yasifun. Exempt soit Allah de toute imperfection, au-dessus de tout ce qu'il décrive. Cheikh Abdelrazzaq al-Badr nous dit ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ Ils disent qu'Allah a eu un enfant, exempt soit-il de toute imperfection, ce sont au contraire des serviteurs honorés. Avec les autres versets, notamment celui qui va venir, je vais d'abord le lire et après vous dire la parole du Cheikh. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Dans le sens des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ils dirent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Là on parle des chrétiens dans ce verset-là. لقد جئتم شيئا إدا أي شيئا عظيما Vous venez de faire quelque chose d'immense. Vous venez de proférer une parole extrêmement grave et lourde. comment avez-vous dit qu'il a un enfant, que le Créateur a un enfant? À cause de cette parole, les cieux ont failli se déchirer, la terre se fendre, les montagnes s'affaisser et s'écrouler, à cause du fait qu'ils ont prétendu un enfant au tout miséricordieux. Il ne convient pas au tout miséricordieux de s'attribuer un enfant. Tous ceux qui habitent les cieux et la terre lui viendront serviteurs pleinement soumis. Il les a tous comptés et il connaît tout leur nombre. Et chacun viendra individuellement le jour dernier à lui. Subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdelrazak al-Badr a dit: nous comprenons de ce verset que les erreurs dans les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala ne sont pas comme les erreurs dans un autre domaine. Regardez ici la réaction des cieux, de la terre et des montagnes quand on a attribué à Allah un enfant, alors que parmi les noms et attributs d'Allah, Al-Ahad, Al-Wahid, le seul, l'unique, et parmi ses attributs, Al-Ahadiyya, Al-Wahdaniyya, l'unicité, le fait qu'on ait touché à cet attribut, qu'on ait parlé de cet attribut par le faux, par l'erreur, a provoqué la réaction de ces créatures, les cieux, la terre, les montagnes. Ce qui prouve que l'erreur dans les noms et dans les attributs d'Allah n'est pas comme l'erreur dans un autre domaine. D'où l'importance d'apprendre la bonne croyance. Tu veux faire trembler les cieux? Tu veux faire trembler la terre? Tu veux faire trembler les montagnes? Apprends la bonne croyance. Apprends la bonne croyance pour être préservé de cela. Et lorsque nous voyons le terme waladan, walad, beaucoup pensent que walad veut dire garçon. C'est faux. Walad veut dire enfant. Walad yumkinu an yakun al-bint wa yumkinu an yakun min al-dhukur. Le mot walad, enfant, on peut l'appliquer pour une fille comme un garçon. Comme ici on voit waqalu takhadha ar-rahman walada bal ibad mukramun. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Le terme employé, c'est walad. On parle de qui ici? De ceux qui ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Ils ont dit walad. Et dans l'autre verset, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, les gens du livre, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Ici, on parle d'un garçon. Et Allah Azza wa Jal a dit, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إذن الأولاد معناه الذكور والإناث. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, Allah vous enjoint dans vos أولاد, vos enfants. Puis il a cité les garçons et les filles. On s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك